Pauline Pucciano, Titania 3.0. Chapitre 11. L'échange. Lorsque Mito se présenta boulevard des Capucines, son numéro était parfaitement préparé. Ses compères, invisibles dans les coulisses, c'est-à-dire sur le toit, attendaient son entrée en scène. Les premières minutes seraient décisives. En pénétrant par la porte qu'il avait appelée la veille l'entrée des artistes, il commença par simuler une crise d'angoisse spectaculaire. Seul dans le couloir qui menait à l'ascenseur, il parut ne pas remarquer la jeune fille toute blanche, presque fantomatique, sur laquelle les portes rouges se refermaient. Il était trop occupé à avaler une pilule sudorifère et à chercher l'air avec de grands gestes affolés. Il arracha à demi ses haillons, comme s'il étouffait dans un vêtement trop serré, et se mit à suffoquer bruyamment. L'employé d'Ex-Ténébra ne tarda pas à arriver et pénétra dans le couloir pour s'approcher de Mito qui affecta de ne pas le voir. « Monsieur ?» Mito se retourna pour se diriger vers la rue. « Monsieur ?» L'employé l'avait rattrapé et le prit doucement par le bras. « Monsieur, je peux sûrement vous aider. »«
De l'air !» articula Mito.
« Vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Voulez-vous un calmant ?» L'air de la rue sembla lui faire un peu de bien. Une sueur abondante couvrait son front et dégoulinait le long de ses tempes jusque dans son cou. « J'ai rendez-vous en haut, » dit-il pitoyable. « Ils doivent me remplacer le cœur et un poumon. Mais c'est idiot, on dirait que mon corps se révolte. » L'employé, un beau jeune homme sans défaut, ne lâchait pas son bras. « Voulez-vous que je vous accompagne là-haut ? » proposa-t-il. « Ah, c'est pas de refus, » dit Mito en sortant un petit sac pour souffler à l'intérieur. « Mais vous voyez, quand je suis dans cet état-là, il ne vaut mieux pas me parler d'un ascenseur. »«
Vous êtes claustrophobe ?»«
Oui, surtout quand je suis angoissée. » Mito prit de longues et profondes inspirations dans son sachet avant de demander « Vous n'auriez pas un escalier ?» L'employé parut rassuré. Il avait eu peur de se faire taper sur les doigts s'il avait laissé filer le client. Mais le fait de passer par l'escalier, bien que cela ne fût pas très réglementaire, lui paraissait être une vétille. « Bien sûr, monsieur, je vais vous accompagner. Vous êtes sûr que vous pourrez grimper les 5 étages ?»«
Je vais prendre mon temps, mais je pense, oui. Vous avez déjà subi ce genre d'opération, vous ?»
L'employé le guidait à travers les locaux d'Ex-Ténébra. À côté de la cage d'ascenseur, au fond de l'office, une porte donnait sur un grand escalier intérieur.
« Non, jamais. Mais je vois tous les jours des clients qui se font opérer. Je peux vous assurer que notre technique opératoire est on ne peut plus performante. Nous avons les meilleures garanties d'hygiène et de santé. »«
Oui, des nano-nettoyeurs de classe 4, je sais, » dit Mito d'un air sceptique. L'employé, qui voulait éviter tout risque de fuite, avait prié Mito de le précéder sur les marches, et celui-ci tournait régulièrement la tête pour lui parler.
« Mais quand même, il s'agit de se faire retirer le cœur. » « Est-ce que pendant le bref moment où on n'a pas de cœur du tout, on est techniquement mort ?»«
Mais non, » dit l'employé, « les fonctions vitales ne sont pas interrompues à aucun moment de l'opération. On va vous montrer une petite vidéo explicative avant de vous endormir. »«
Et il n'y a jamais d'accident. »
L'employé hésita un instant. Ils arrivaient au 3e étage. « Non, pas à ma connaissance, pas depuis que je travaille ici. » Mito s'immobilisa et se retourna, prêt à redescendre.
« Oh, vous devriez bosser votre argumentaire, mon vieux, parce que votre réponse me fait froid dans le dos. Il y a déjà eu des accidents avant ?»«
Pas du tout, qu'est-ce que vous allez chercher ? Je disais simplement que je ne travaillais pas ici depuis longtemps, mais je ne sous-entendais pas du tout qu'il y avait eu des accidents.
Vous me le jurez ?»
Ils tournèrent tous deux la tête en entendant un bruit qui venait des étages supérieurs, et ils virent bientôt arriver à leur niveau la silhouette difforme d'enveloppante.
« Ah, monsieur Blandion, je suis tellement heureuse de vous voir. J'ai cru comprendre que vous aviez eu une petite montée d'angoisse. C'est très fréquent, ne vous inquiétez pas. Je le dis toujours aux clients, il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est une opération chirurgicale qui demande qu'on soit bien informé et bien soutenu. Voulez-vous prendre mon bras, monsieur Blandion ? Je vous promets que je ne vous quitte plus. »
Mito parvint à pleurer et à composer sur son visage un mélange d'angoisse et de soulagement si convaincant qu'elle le prit sous son aile comme un enfant.
« Ce sera tout, Gilles, » dit-elle à l'employé qui continuait par précaution à bloquer le passage. « Vous êtes sûr ? Vous ne voulez pas que je reste un moment ?»«
Non, je vous remercie. » L'employé tourna les talons, et tandis qu'il redescendait, elle murmura à l'oreille de Mito.
« Ces petits jeunes, ils sont bien gentils, mais parfois ce qu'ils peuvent être assommants. »
Et elle émit son gloussement caractéristique que Mito put sentir vibrer jusque dans son propre bras.
Ah, je vous remercie d'être venu me chercher. C'est vraiment dur, vous savez. Je n'arrête pas de visualiser la scène, et je ne sais pas pourquoi l'idée d'être enfermée me turlupine. Vous pensez que je pourrais, quelques minutes avant qu'on commence, histoire de prendre le frais, passer un petit moment à la fenêtre, là-haut ?
Le docteur Fabre, un homme d'une cinquantaine d'années, aux ongles soignés et à la chevelure crantée, était sur les nerfs depuis le matin. Le conseil d'administration n'avait pas manqué de lui faire comprendre toute l'importance du contrat spécial qui s'honorait aujourd'hui et l'avait abreuvé de recommandations diverses. Le milliardaire avait eu mille et un caprices et il avait dû lui rendre visite plus de 20 fois afin de lui réexpliquer les modalités de l'opération. Et puis, alors que cette idiote d'enveloppante avait trouvé le moyen de programmer une visite médicale pour la même heure, l'avocat de Madame Morgovic avait débarqué dans un costume avant-gardiste luxueux. Il se tenait là, sur le fauteuil, en face de son bureau, et paraissait quant à lui très calme.
« Je vais enregistrer notre conversation, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »«
Je vous en prie, » dit le docteur Fabre. « Mais faites vite, j'ai une opération dans quelques minutes, et ces imbéciles ont prévu un autre rendez-vous en même temps, avec tous les problèmes que cela comporte. »
L'avocat posa son Hervé sur la table et fit une brève manipulation. « Pouvez-vous décliner vos noms, prénoms, fonctions ?»
Liberton Pierre Fabre, chirurgien spécialisé dans les greffes. Je travaille pour Morgan Corporation depuis 13 ans.
Ma cliente souhaite que vous interrompiez le processus d'échange impliquant la personne du Liberton Daphné Morgovic.
C'est impossible, répondit le docteur Fabre. J'ai reçu des consignes expresses du conseil d'administration ce matin même.
Ma cliente est elle-même actionnaire de la compagnie, comme vous ne l'ignorez pas.
Mais elle n'est pas majoritaire. Le conseil d'administration a décidé de passer outre son éventuelle demande d'intervention et de mener le processus à son terme.
L'avocat mit fin à l'enregistrement et consulta l'heure sur le Hervé en le rangeant dans son étui.
Bien, cela n'a pas pris longtemps, comme vous le voyez, cher docteur, et je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je sais que vous avez du travail.
Comment ? Vous n'insistez pas plus que cela ?
Non, ma cliente connaît très bien les règles du jeu.
Mais à quoi sert cette mascarade ?
Oh, il y aura probablement un procès, et si ce n'est pas au palais de justice, ce sera sur la chaîne Happenings. Il est essentiel que ma cliente couvre ses arrières, afin de prouver qu'elle a tenté de sauver sa fille.
Mais ne pouvait-elle pas le faire plus tôt ?
Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette question, docteur.
Combien va-t-elle gagner personnellement sur cette transaction ?
L'avocat se saisit d'un papier qui traînait sur le bureau et d'un stylo. Ces objets archaïques n'avaient plus cours que parmi les gens qui avaient des choses à se reprocher, sur le périph' et en haut des tours. Il inscrivit un nombre sur le papier, le fit passer rapidement sous les yeux du docteur et l'inséra directement dans un incinérateur miniature.
« Precium doloris, docteur, le prix de la douleur !»
La secrétaire médicale frappa à la porte avant que le docteur Fabre puisse exprimer son effarement.
« Docteur Fabre, on me dit de vous prévenir que la patiente est dans la salle. »
Titania, les yeux fixes, avait supporté sans parler toute la sordide préparation. Le plug d'un calmant, le scanner, la désinfection, le rasage d'une bande de cheveux à l'endroit où l'on ouvrirait la boîte crânienne. Elle avait accepté d'enfiler une sorte de blouse que l'on dégrafait derrière le cou en quelques instants, et elle se tenait à présent très droite, au seuil de la salle, qui serait son dernier décor. Une salle en tout point banale et neutre, dans laquelle elle ne ressentait rien d'autre qu'un vide.
« Alors, c'est ici que cela se passe ? » demanda-t-elle.
Elle essaya de regarder l'infirmière, mais le calmant neural troublait sa vue, et elle ne voyait que des traits flous émergeant de l'uniforme.
« Ah, vous avez retrouvé votre langue ? » demanda l'infirmière.
La voix semblait indiquer une femme entre deux âges, qui avait le cœur bien accroché, et dont les gestes précis ne laissaient pas de place aux sentiments.
« Pas pour longtemps, » dit Titania d'un air sombre.
« Que souhaitez-vous comme décor ? Bord de mer, voie lactée, forêt, intérieur de palais ?
Vous auriez quelque chose d'oriental ?
Non, seulement les 4 que je vous ai proposés, » répondit-elle agacée.
« Intérieur de palais, alors. »
Sur un panneau de commande, l'infirmière programma le décor 3D. Titania ressentait toujours le même éblouissement lorsque l'espace se métamorphosait ainsi sous ses yeux, comme dans un rêve. Elle alla prendre place sur le divan, tandis que la salle se muait en une chambre de féerie, avec un grand balcon donnant sur un jardin anglais, empreint de mystère et de calme. Les meubles, les boiseries, les velours des draperies, les livres dans les rayons des bibliothèques luisaient d'un éclat ancien.
Un bref instant, aidée par la drogue neurale qu'il lui avait fait prendre, elle s'évada.
« Ça vous plaît ?» demanda l'infirmière d'un ton blasé.
« Oui, c'est beau, » dit-elle.
La tenue de l'infirmière vers laquelle elle se tourna la rappela amèrement à la réalité.
« Dans quelques instants, vous serez mise en communication avec le client qui a payé pour l'échange. »
« Est-ce obligatoire ?»«
Le client est roi d'ordinaire, mais ce client-là est empereur. Les désirs qu'il exprime sont des ordres. Allez-vous vous montrer coopérative ?»
Titania sentit la menace affleurer dans la question et elle voulait que tout se passe le moins violemment possible.
« Ne l'ai-je pas été depuis tout à l'heure ?»«
Si, mais il vous faut tenir encore un peu. »
Titania ne répondit pas. Elle était assise sur le divan, immobile. Elle avait un peu froid, et son esprit avait tendance à divaguer. Happé par les trompe-l'œil du décor 3D, il s'embarquait dans des rêveries exotiques, s'enivrait de senteurs imaginaires.
« Vous vous débrouillez en anglais ?» demanda l'infirmière.
« Oui, » répondit Titania d'un air absent.
« Je vous passe la communication. »
Le balcon disparut d'un seul coup, et Titania se sentit un peu barbouillée devant cette transition brutale. Un vieil homme, dans un lit médicalisé, apparemment dans une clinique de luxe, lui souriait à travers la caméra. Elle se sentit heurtée par sa laideur.
« Hello, miss, » dit-il l'air ému.
« Hello, » murmura-t-elle du bout des lèvres. Ils poursuivirent la conversation en anglais.
« Nous sommes sur le point de faire le grand saut tous les deux, » dit-il. « J'espère que cela n'est pas trop difficile pour vous. »
« J'aurais aimé avoir ces quelques moments pour moi-même, pour me souvenir, pour penser.
« J'aurais aimé vous rencontrer en personne, » dit-il. « Et le docteur Fabre m'a dit que je ne pouvais pas vous y forcer. »
« Dans votre position, je crois que j'aurais préféré demeurer en coulisses. Pourquoi teniez-vous à me rencontrer ?»
« Vous êtes très belle et vous êtes ma muse depuis un temps très long. Je suis votre premier courtisan. Alors maintenant que je dois dire adieu à mon pauvre vieux corps, je voulais prendre un peu de courage en contemplant votre perfection. »«
Votre corps va mourir et pas le mien, » observa-t-elle. « Je n'avais pas songé que vous aussi vous auriez peur. »«
Ne sommes-nous pas finalement dans des situations très similaires ?»«
Moi, je vais disparaître. » dit-elle d'un air fermé. « Vous, vous êtes seulement en train de me voler ma jeunesse et mon avenir. »«
Non, je n'ai pas volé votre jeunesse, » dit-il doucement. « Je l'ai achetée, parce que vous me l'avez vendue. »
« Pouvons-nous mettre fin à cet entretien, s'il vous plaît ? Je n'ai plus de temps pour la colère ou même pour les regrets. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous, je ne vous connais pas et votre histoire ne m'intéresse pas. »
« Comme vous voudrez, vous serez à moi bien assez tôt. »
« Dans 20 minutes, » précisa l'infirmière. L'écran s'éteignit, et celle-ci relança le décor du jardin anglais. Titania se leva, fit quelques pas chancelants, et finit par se rasseoir.
« Vous avez l'air agité, » dit-elle. « Vous voulez une autre dose de calmant ?»«
Non, je voudrais juste que vous sortiez si possible, et que personne ne me parle plus, pouvoir me concentrer sur ce qui est important. »
« Je ne peux pas sortir. Je dois rester avec vous jusqu'à la fin. Mais je ne parlerai pas si vous le souhaitez. »
Titania changeait sans cesse de position et semblait maintenant presque incohérente.
« Savez-vous si ma mère a appelé ?»«
Je l'ignore, mademoiselle. Le docteur Fabre vous le dira peut-être. »
« Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange, » dit Titania, comme pour elle-même. « Je me rendais dans un couloir de la mort, là où les prisonniers attendent leur exécution. » Ils étaient en train de manifester, et je lisais sur leur banderole « Debout dans le temps ». C'est étrange, n'est-ce pas ?
Ça ne veut rien dire, dit l'infirmière en haussant les épaules.
J'aurais voulu raconter ce rêve à Jean, je suis sûre qu'il aurait aimé cette formule « Debout dans le temps ».
Ses yeux s'emplirent de larmes.
Il m'a écrit un poème si beau ce matin, je l'ai appris par cœur. Elle se mit à réciter à voix basse, toujours pour elle-même, tandis que l'infirmière s'affairait autour de la console où elle préparait le matériel de l'injection. « Je t'ai suivie, fille de cendre et de ravage, et j'ai feuille un à un tes multiples visages, tes corps superposés, qui me content l'histoire sans sens de tes métamorphoses illusoires. » Imperturbable, l'infirmière emplissait la seringue qui devait endormir Titania. « Je t'ai aimée, fille de neige et d'artifice, Reine de chair et de diamants, je t'ai aimée, chef-d'œuvre de rêve et de sang, beauté factice. Il se peut, mon amour, que je désobéisse aux lignes des destins que ta main a tracées. » Titania, hagarde, se demanda ce que Jean avait voulu dire. Était-il possible qu'il la sauve ? En entrant chez Morgan Corp tout à l'heure, elle s'était attendue à entendre une employée lui annoncer que sa mère avait finalement décidé de résilier son contrat, et elle avait éprouvé une sorte de consternation stupide devant la triste réalité. Sa dernière illusion, à laquelle elle s'était secrètement raccrochée tous ces derniers jours, était tombée, provoquant dans son âme un petit bruit mat, comme celui d'une chute. Sa mère avait osé, l'inimaginable était devenu réalité. Elle ne la sauverait pas. Chaque minute qui passait rendait la chose un peu plus certaine. Et Titania éprouvait un regret amer devant sa propre naïveté. On ne jouait pas avec des gens comme elle. On perdait à tous les coups et on payait le prix fort, toujours. Comment avait-elle pu imaginer qu'elle serait dispensée de régler sa dette ? La colère la sauva pendant quelques minutes de la tristesse sans fond où elle s'était trouvée en pensant à Jean, et ce fut à cet instant que le docteur Fabre arriva. « Tout est-il prêt pour l'échange ? » demanda-t-il à l'infirmière. « Oui. Dans le bloc aussi ? » ?»« Oui. Il est important que tout soit parfaitement synchronisé, dit-il. » Titania se demanda s'il allait lui adresser la parole. Elle avait la désagréable impression d'être traitée comme un corps déjà sans vie dont on se préparait à disposer. Ce qu'elle ressentait n'intéressait plus personne depuis longtemps. « Ma mère n'a pas essayé de dénoncer mon contrat, docteur Fabre ?» Le docteur la regarda avec un certain intérêt. Il hésita un moment sur la réponse. « Je ne sais pas comment répondre à votre question, mademoiselle. Je ne sais pas ce que vous avez besoin d'entendre. Oh, au point où j'en suis, la vérité ne peut plus me faire tellement de mal. Votre mère a envoyé un avocat pour demander que l'échange soit stoppé ce matin. Elle ne s'est pas déplacée en personne ? Non. Le conseil d'administration ayant donné des indications contraires, nous n'avons pas pu accéder à sa demande. Mais elle a essayé de me sauver. Vous voulez la vérité ? Oui. Elle a négocié votre perte avec les autres actionnaires. Sa résistance était de pure forme. C'est ce que vous a dit son avocat ? Non, il me l'a seulement laissé entendre. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'insistait pas davantage, il m'a dit « Ma cliente connaît très bien les règles du jeu ». Oui, c'est vrai qu'elle les connaît toujours très bien. Elle est même capable de les modifier quand elle est sur le point de perdre. On dirait que cette fois, c'est vous qui perdez la partie. Où se trouve mon acheteur ? Demanda-t-elle pour changer de conversation. Dans une salle voisine. Vous souhaitez le rencontrer ? Titania fit non de la tête. Elle s'était imaginé qu'il était loin, quelque part dans le Pacifique. Mais les détails matériels accablants la rattrapaient, en cette heure ultime. Il serait probablement endormi dans la salle juste à côté lorsqu'on amènerait son corps à elle dans la même salle. Le docteur Fabre procéderait alors aux trépanations, et le cerveau du vieillard serait transféré dans sa tête blonde. « Je souhaite m'endormir pendant la diffusion d'un souvenir 3D. Pourrez-vous m'indiquer le bon moment ?» Le docteur regarda l'infirmière qui hocha la tête d'un air grave. « Quand vous voulez, » dit-il. Alors Titania ferma les yeux, et de ses doigts un peu tremblants, elle inséra la puce dans son hub crânien. Immédiatement, la vague de ses propres émotions la submergea. Son angoisse dévorante devint soudain diffuse, et d'autres sentiments refirent surface dans son cœur. Un frisson d'exaltation amoureuse, une envie de jouer, un espoir fragile. Le regard de Jean était troublant. Il semblait s'adresser à ce qu'il y avait de plus profond en elle. Il déclama son poème de sa voix lente et belle, et Titania soupira. Ce fut comme si toute l'angoisse qui serrait sa poitrine s'exhalait par ce soupir. Titania avait presque perdu la conscience de l'instant présent et s'abîmait voluptueusement dans son souvenir. Jean lui inspirait en ce moment un désir magnétique qui faisait tout basculer autour d'elle. Son cœur se mit à battre plus vite et plus fort, et lorsqu'ils s'embrassèrent, la sensation d'apesanteur fut si intense qu'elle manqua d'effaillir. Elle ne sentit pas l'aiguille percer un chemin délicat jusqu'à sa veine, et sombra dans l'inconscience, le cœur battant, les lèvres humides, follement amoureuse. Le docteur Fabre ouvrit en grand la porte à deux battants qui les séparaient du bloc opératoire, où l'on était en train d'amener le vieillard. Mais il n'eut pas le temps de terminer son geste, parce que l'autre porte s'ouvrit derrière lui, à grand fracas. Il se retourna et ne vit rien, au premier abord. Une odeur médicamenteuse flottait dans l'air, mais il crut à un flacon renversé. Il se tourna vers l'infirmière qu'il vit distinctement mettre la main à sa gorge dans un geste d'impuissance et tomber à genoux, la face contre le sol. Enfin, tandis qu'il prenait une grande bouffée d'air, ses yeux se posèrent sur la grenade à chloroforme au milieu de la pièce qui répandait autour d'elle une petite vapeur de couleur verte. « Appelez la sec !» Sa phrase inutile ne fut jamais terminée. Mito avait l'impression d'avoir déployé ses ailes et son esprit, qui lui paraissaient fonctionner avec une rapidité extraordinaire. Il avait tout exécuté comme un virtuose, y compris la partie improvisation. C'était l'un de ces états de grâce où les obstacles, loin de le bloquer, lui donnaient de l'élan. Non content d'avoir réussi sans coup férir à trouver l'escalier et à ouvrir la fenêtre, il avait aussi guidé les HR vers la salle où dormait Titania et circonvenu le médecin et l'infirmière en quelques secondes à peine. Tout s'était passé trop vite pour que les autres employés aient pu véritablement réagir. Anne Velopante, sidérée, avait poussé des petits cris d'oiseaux effrayés et les bio-ingénieurs s'étaient enfermés à clé dans les salles spécialisées. C'était lui qui s'était adressé à la caméra de surveillance pour prononcer le message bref qu'il avait préparé. « Nous n'hésiterons pas à tuer l'otage si nous sommes inquiétés. Nous vous recontacterons pour la demande de rançon. » Puis, il s'était emparé de Titania, doublement anesthésiée par son injection et par l'inhalation du chloroforme, et, la chargeant comme un sac sur l'épaule du plus costaud d'entre eux, il s'était rué dans l'escalier. Ils avaient agi si rapidement que les agents de sécurité montés par l'ascenseur échouèrent à les intercepter, et ils se retrouvèrent dans la rue, ivres d'action et d'adrénaline, avec une jeune fille inconsciente sur le dos. La tête des passants les dégrisa instantanément, et Mito prit conscience avec une brutalité désagréable de la faiblesse insensée de son plan. Comment pouvait-il espérer atteindre la porte d'Anière avec une fille endormie et sans aucun doute des armoires roulantes aux trousses? Tous les HR se tournèrent vers lui dans l'attente d'un signal, et Mito, fidèle à son rôle bien que son sentiment intérieur eût radicalement changé, prit un air déterminé et leur fit signe d'arracher leur masque à gaz. Puis il les paya rapidement, avant de dévaler le boulevard des Capucines en direction de la Madeleine, accompagné du grand gaillard qui transportait Titania. Sur le vaste porche extérieur, à l'abri du vent et de la pluie, des dizaines de HR avaient trouvé refuge. Mito se souvint d'une histoire que lui avait racontée Charles Blandion. Une nouvelle d'un certain Pot, qui s'appelait, il s'en souvenait très bien, la lettre volée. Un enquêteur, pour une raison quelconque, cherchait à retrouver une lettre dans une maison. Il fouillait absolument toutes les cachettes imaginables, y compris les pieds de chaque chaise, les trous du plancher et les coins les plus obscurs de la cave et du grenier. Mais il ne trouvait rien. La lettre, dans un beau cadre, bien en évidence, était accrochée au mur, là où personne n'aurait songé à la chercher. Mito demanda à son compagnon de déposer Titania par terre, au milieu d'un groupe de femmes et d'enfants. Il retira sa blouse d'hôpital, la fourra dans les mains du compagnon qu'il pria de décamper, et chercha des yeux quelque chose pour la couvrir. Une femme, qui allaitait un bébé criard de son sein maigre, eut pitié d'eux et lui tendit une couverture crasseuse, sans poser de questions. Alors Mito s'assit pour faire la manche, la tête de Titania posée sur sa cuisse, sa beauté soigneusement dissimulée au regard. Et lorsque le cortège de la police passa, dans des sirènes hurlantes, lorsque les officiers athlétiques et sentant le frais traversèrent le porche de l'église au pas de course à la recherche d'un mouvement suspect, d'une tentative de fuite ou d'effraction, d'un désordre quelconque, ils ne trouvèrent rien d'anormal et passèrent leur chemin. Les invisibles avaient cette force. On pouvait se fondre en eux et devenir si flou, si transparent, que les nantis détournaient le regard. En fin d'après-midi, à la brune, comme Titania ne se réveillait pas, Mito fut obligé d'échanger avec un HR de la Madeleine la seconde de ses boucles d'oreilles contre un vieux caddie dans lequel il réussit à la faire tenir. Il cacha tant bien que mal sa chevelure soyeuse et sa peau scintillante avec ses hardes, et dans cet étrange équipage, il entreprit de remonter le boulevard Malesherbes. À Paris, nul ne faisait attention à ce que transportait un HR dans un caddie. Les gens s'écartaient d'un air dégoûté ou ennuyé, et, plus fréquemment encore, paraissait ne rien voir. Titania reposait comme une poupée désarticulée, les membres tordus en des angles bizarres. Mito, qui la regardait sans cesse pour vérifier qu'elle ne s'éveillait pas, ne put s'empêcher de penser à elle comme à un ange tombé, déchu, qui aurait gardé sur sa peau un peu de la lumière du ciel.